Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Quel genre de moissonneur êtes-vous? Dieu nous a appelés tous à être des moissonneurs, pas maintenant, mais à l'avenir. Nous nous apprêtons donc à le seconder dans ses moissons. Que devons-nous développer pour avoir l'âme de moissonneur spirituel? Dans Lévitique 19,15, il est écrit « Tu jugeras ton prochain selon la justice ». Bon, l'Éternel voulait parler évidemment de la justice divine. Il déclara dans un contexte précis ces choses. Il précéda cet ordre formel par plusieurs ordres formels tels que « Vous ne déroberez point ». Vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd. Tu ne mettras point devant un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Lévitique 19, versets 11 à 15. Ces principes reflétaient l'esprit de la pensée divine. Et bien sûr, des 10 commandements communiqués un peu plus tôt. Et ces propos s'inscrivaient dans l'esprit du second grand commandement, résumant la loi divine, évoquée notamment par Christ dans Matthieu 22, 39, et qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et qui est aussi énoncé dans Lévitique 19, au verset 18. Christ, en revenant sur ce principe vital, n'apportait rien de nouveau, mais réitérait un commandement qui avait déjà été donné bien des siècles auparavant aux enfants d'Israël. Déjà, dans le livre du Lévitique, nous trouvons toute une ligne de vie préfigurant le christianisme authentique. L'Éternel avait dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. » Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 17 principes. 17 principes. Je suis l'Éternel, vous observerez mes lois. Versets 16 à 19. Dans le contexte de Lévitique 19, 15, où l'Éternel ordonna à Israël « Tu jugeras ton prochain selon la justice », il donna aussi à son peuple l'ordre formel suivant, qui, de prime abord, pourrait sembler anachronique, mais qui pourtant s'inscrit pleinement dans le contexte de l'amour divin. Reportons-nous, si vous le voulez bien, à Lévitique 19, et nous débuterons à partir du verset 9. Lévitique 19, et le verset 19. Quand vous ferez la moisson dans votre champ, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Et dans le même ordre d'idées, verset 10, « Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce principe est réitéré dans Lévitique 23. Reportons-nous à Lévitique 23, quelques pages plus loin. Lévitique 23, pour bien prouver que pour Dieu, c'était important. Lévitique 23 et le verset 22. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, » question de moisson, « tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » L'Éternel donna donc à son peuple l'ordre de ne pas ramasser les épis d'orge ou de blé qui se trouvaient en bordure de ses champs, et il ordonna aux moissonneurs de laisser des tiges, des épis, pour les pauvres, les étrangers. C'était là un principe toujours applicable, reflétant l'amour de Dieu pour ses enfants. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Ce qui s'inscrit dans le principe chrétien, tu jugeras ton prochain selon la justice. Vous allez peut-être me dire, mais en quoi cela me concerne-t-il? Nous sommes certes peu nombreux en ce 21e siècle à posséder des champs de blé et à organiser des moissons. Néanmoins, le principe énoncé ici par l'Éternel a été préservé pour nous car il est spirituel et il s'inscrit dans toute une ligne de vie. À l'approche de la Pentecôte qui sera célébrée cette année 2023, le dimanche 28 mai, ce principe devrait notamment nous inciter à longuement réfléchir sur notre appel, sur la moisson des prémices du plan divin de salut pour l'humanité et sur deux aspects clés de notre appel. Premièrement, nous devons juger notre prochain selon la justice, pour faire partie de cette première moisson des prémices. Deuxièmement, nous devons laisser à d'autres le soin de glaner, ne pas essayer de tout ramasser sans rien laisser aux autres. Dieu pense toujours aux pauvres, à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. Et nous le devrions aussi. Si nous faisons partie de la première moisson, spirituellement parlant, tous les autres êtres humains sont, à cette époque précédant le royaume, des étrangers, des pauvres, des veuves et des orphelins qui n'ont pas encore eu leur chance, mais qui l'auront un jour. Et nous avons été appelés pour les aider, appelés à être des Boaz spirituels, de futurs moissonneurs spirituels dans le royaume de Dieu. L'un des plus beaux exemples bibliques de ces principes est illustré dans le livre de Ruth. Nous allons donc nous reporter au livre de Ruth. Ruth chapitre 2, verset 2. Ruth chapitre 2 et le verset 2. Après les juges, un petit livre, quelquefois difficile à trouver, mais Ruth chapitre 2 et le verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune Moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Il ne s'est point reposé qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Que nous révèle cet épisode? Que Boaz pratiquait sa religion. Que Boaz était un homme bon. Mais surtout que Dieu est amour pour avoir promulgué de telles lois. Il avait dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 23, verset 22. Vous savez, le monde où nous vivons me fait penser à un passage de Job. Je voudrais que nous nous y reportions. Un passage de Job, Job 24 et le verset 2. Job chapitre 24 et le verset 2. Job 24, verset 2, « Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours ? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture, ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes. Elles embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tous nus, sans vêtements, ils sont affamés, ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir, et ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. « Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons, le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi ? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. » Les prophéties indiquent que nos nations, un jour, nos nations de souche israélite glaneront comme des étrangers, des orphelins et des veuves, du fait de leurs péchés nationaux. Ésaïe 17. Verset 5, Ésaïe 17, verset 5. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. C'est prophétique. Nous sommes Jacob. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Verset 6, il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier. 2, 3 olives au haut de la cime, 4, 5 dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sommes-nous prêts pour ces choses? Ésaïe chapitre 24, verset 13. Car il en est dans le pays au milieu des peuples comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Jérémie 6 et le verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main comme le vendangeur sur les ceps. Michée, chapitre 7, verset 1. Michée, après Jonas. Michée 7, 1, malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits. Comme au grappillage après la vendange, il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. Jérémie chapitre 49 et le verset 9. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Sommes-nous des Boaz spirituels, frères et sœurs? Nous préparons-nous à être des moissonneurs spirituels? Parlant de l'agneau, de Christ, 4 êtres vivants et 24 vieillards se prosternèrent du temps de l'apôtre Jean devant le trône de Dieu dans une vision donnée à l'apôtre Jean et ils déclarèrent ce qui suit. Apocalypse chapitre 5 et le verset 9. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Nous sommes ce royaume ou ces rois et ces sacrificateurs. Nous le sommes en puissance, nous ne le sommes pas encore littéralement parlant, mais nous le sommes en puissance, en formation, en préparation. Pierre a précisé que nous sommes, nous autres chrétiens, convertis, des pierres vivantes, en cours d'édification, devant former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 5. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Verset 7. Et comme l'a dit Pierre, s'adressant aux appelés, aux vrais chrétiens, 1 Pierre 2, 9, reportons-nous à ce passage, 1 Pierre 2, 9, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous des Boaz? Êtes-vous des moissonneurs en puissance? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Prenez-vous au sérieux votre appel. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En laissons-nous pour les glaneurs? Sommes-nous des Boaz spirituels, des moissonneurs spirituels en puissance? Ailleurs, l'Éternel avait rappelé à son peuple la nécessité pour ses enfants de ne jamais oublier l'orphelin, l'étranger, la veuve. Deutéronome 24, verset 19. Deutéronome, chapitre 24 et le verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Jacques chapitre 1, verset 27, Jacques chapitre 1 et le verset 27, Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Pour être des Boaz spirituels, nous devons perdre l'habitude d'en prendre et d'en laisser. Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, avait du mal à accepter le Nouveau Testament. Selon lui, Jésus était le meilleur maître moral que le monde ait connu. Écrivant à John Adams, le deuxième président américain, il qualifia les enseignements de Jésus de, je cite, « code moral le plus sublime et le plus bienveillant jamais à la portée de l'homme ». Fin de citation. Pour lui, ses enseignements étaient des diamants, précieux, sans prix. Mais il avait du mal à accepter tout le reste. Si les enseignements moraux de Jésus étaient des diamants, comme il le pensait, le restant du Nouveau Testament était, pour Jefferson, du fumier. Il était convaincu que Jésus n'avait jamais eu l'intention de se faire passer pour un Messie promis, ou pour le Fils de Dieu, qu'il n'avait jamais accompli le moindre miracle non plus, et que ce que l'on avait écrit à son sujet n'était que pure fiction ajoutée par ceux qui essayaient de rendre légitime et les altérations qu'ils avaient incorporées au récit. À son avis, à l'avis de Jefferson, les nombreux morceaux des récits de l'Évangile étaient, je cite, « aussi aisément identifiables que des diamants dans du fumier ». Fin de citation. Car ce n'étaient pas des détails fantaisistes ajoutés par ceux qui, je cite, « exprimaient de manière inintelligible pour d'autres ce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes compris ». Fin de citation. Et dans ces vieux jours, Jefferson se mit à faire ce que beaucoup de gens ont fait ou continuent de faire, figurativement parlant. Muni d'une lame de rasoir et de colle, il coupe des passages des évangiles, les remplace ailleurs et corrige ses quatre récits jusqu'à obtenir quelque chose qu'ils approuvent. Résultat ? Pour Jefferson, un volume de 84 pages intitulé « The Life and Morals of Jesus of Nazareth », œuvre connue comme « La Bible de Jefferson ». Cet ouvrage raconte l'histoire d'un maître juif très sage qui vécut au premier siècle, qui a appris à ses disciples à vivre justement, et qui fut tout compte fait exécuté par le gouvernement romain. Après que Jefferson ait fini de couper et de coller des morceaux, il ne resta plus aucune trace de Jésus, du Fils de Dieu ressuscité. Plus aucune trace. Plus aucune trace du Sauveur qui pardonne les péchés, ni même de Jésus le faiseur de miracles. Version qui contredisait l'idée que se faisait Jefferson du monde et qu'il avait éliminée. Verset par verset. Tout ce qui restait, c'était ce que Jefferson souhaitait lire. L'histoire d'un homme sage qui avait partagé avec le monde de bonnes valeurs morales. Nous avons parfois parmi nous des Jefferson. Il n'en va pas de même pour tout vrai chrétien. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, 2 Timothée 3, 16, « Toute l'Écriture est inspirée. » Dans l'original, il est même question d'être insufflé de Dieu. « Est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. » Sommes-nous des Boaz spirituels? Frères et sœurs, que faites-vous des portions de la Bible qui défient votre conception du monde? Oh, il y en a. Si vous n'avez pas encore rencontré ces passages qui vous plongent dans l'incertitude ou qui vous gênent, soyez assurés que vous en trouverez. Voilà un livre qui prétend être la parole inspirée de Dieu, qui confronte ses lecteurs avec leur propre nature humaine, défectueuse, qui exige des changements radicaux dans leur manière de vivre et de raisonner. Il n'est guère plaisant de plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, comme l'a écrit Jacques dans Jacques 1, 25. Car cette loi nous révèle nos échecs et nos défauts. Mais ce n'est pas tout. La Bible est aussi un livre qui ne s'harmonise pas toujours avec nos propres idées. La Bible contient des histoires dans lesquelles ce que Dieu dit et fait diffère de ce que nous pensions qu'il aurait dû dire ou faire. Ce que nous y lisons nous met parfois mal à l'aise et nous pensons parfois que Dieu aurait dû s'y prendre autrement, ou dire les choses différemment, ou avoir une toute autre optique. Que faire alors? Cherchons-nous le plus souvent à agir à notre guise, c'est humain, c'est même typiquement humain. Nous avons tous, comme Jefferson, notre lame de rasoir et notre colle. Toutes les fois que nous lisons dans la Bible des passages que nous ne comprenons pas, il nous est facile mentalement de les couper jusqu'à ce que nous obtenions une version de la parole de Dieu qui nous convienne. Nous remplaçons ce que la Bible dit par une version de notre cru et que nous acceptons mentalement. Oh, c'est si simple. Il est facile de faire dire à la Bible ce que nous voulons qu'elle dise, de la corriger, de l'épurer, de couper et de recoller jusqu'à ce que nous obtenions ce qui nous plaît. Nous pouvons même y ajouter des éléments d'autres religions ou philosophies. C'est ce que beaucoup de gens font. Vous ne pouvez pas croire en un karma et à ce qu'enseigne la Bible. C'est incompatible. Vous ne pouvez pas insérer dans les enseignements bibliques des idées modernes acceptées quasi universellement sur la tolérance, le yin et le yang, la loi de l'attraction, le pardon comme licence à pécher, un Dieu qui ne s'implique pas dans les affaires humaines, un Dieu qui nous laisse décider ce qui est bien, etc., etc., etc. Ces idées sont incompatibles avec la Bible. Elles ne le sont que quand on coupe, et colle et recolle. Boaz pratiquait sa religion. Avons-nous les pensées qui étaient en Jésus-Christ? Philippiens 2:5. Imitons-nous Christ comme le faisait Paul qui disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul ne disait pas quelque chose de différent de Christ. Il développait ce que Christ avait dit. Il n'y a pas de théologie paulienne, paulicienne. Paul était en accord avec ce que disait Christ. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Raisonnons-nous comme notre Père céleste. Dans Lévitique 19:15, l'Éternel ordonna à Israël « Tu jugeras ton prochain selon la justice. » Est-ce ce que nous faisons? Oui, quel type de justice avons-nous? Nous avons vu que même dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà dit à son peuple, dans l'Ancien Testament, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'était déjà dans Lévitique 19:18. Christ ne donnait donc pas un enseignement nouveau quand il disait, comme dans Matthieu 22:39, ou Marc 12:31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre attitude à l'égard des migrants ou des immigrés ou des étrangers ou de ceux qui ne pensent pas comme nous reflète-t-elle cet amour divin que nous sommes supposés avoir? Serions-nous prêts à faire ce que faisait Boaz? Quel genre d'attitude avait notre Sauveur? Il faisait preuve d'une force de caractère extraordinaire, admirable. Dans toutes les situations, il ne pensait qu'aux autres. Il ne se souciait que des autres, il se souciait de ce qu'il ressentait. Il souhaitait le bonheur de tous. Un jour, des milliards d'êtres humains ressuscités supplieront Christ de glaner ce qui reste à glaner de son royaume. Leur esprit sera ouvert et ils comprendront ce que comprenait la première moisson des âmes, celle des prémices du plan divin. nous. Ils voudront de tout leur cœur prendre part à toutes les activités de ce merveilleux royaume. Nous préparons-nous à les accueillir? Sommes-nous des Boaz spirituels? Approfondissons maintenant ce sujet. Qui sont les pauvres? Qui sont les étrangers? Qui sont les orphelins? Qui sont les veuves? Nous. Je veux parler des vrais chrétiens, de nous. Je veux parler des vrais chrétiens et non de ceux qui se pensent ou se disent riches. Christ a parlé d'un groupe d'individus parmi nous qui n'a rien compris. Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3 et le verset 15. Apocalypse 3 et le verset 15. Apocalypse 3, 15, « Je connais tes œuvres. » Bon, Christ nous parle. Christ parle à son Église, à un groupe d'individus. Il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Car Dieu voit tout. Nous sommes pour lui des livres ouverts. Il voit tout. Il sait ce que nous avons dans le cœur. » Quelquefois, nous avons l'impression que Dieu ne voit pas. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ouh, cela devrait nous faire frémir. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas ça. Tu te penses riche. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Bon, spirituellement parlant, Christ parle ici de quelque chose de spirituel. Il n'est pas question de richesse physique ici. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois, que tu cesses de te faire des illusions. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Christ ne défonce pas la porte, il frappe. Allons-nous ouvrir? Est-ce que notre cœur est ouvert? Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Revenons sur le verset 17. Le danger qui nous guette, c'est de nous dire « Je suis riche. Je me suis enrichi. » Sous-entendu, c'est fait, c'est terminé. C'est un fait accompli. J'ai atteint l'objectif. Nul besoin d'aller plus loin. J'ai tout ce qu'il me faut pour entrer dans le royaume. Et deuxièmement, je n'ai besoin de rien. Et cela, Dieu répond, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et quel conseil Dieu donne-t-il à ces gens-là? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes spirituellement riche. Et des vêtements blancs, symbole biblique de pureté. Afin que tu sois spirituellement vêtu. et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Aux yeux de Dieu, ce que font ces gens-là est honteux. Question de honte ici. Et Dieu dit à Laodicée, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois et cesse de te faire des illusions, sous-entendu. Rassurons-nous, frères et sœurs, que nous ne faisons pas partie de ce groupe, de cette catégorie d'individus, mais qu'au contraire, nous sentions notre misère et que nous nous sentions, spirituellement parlant, pauvres en nous-mêmes, pauvres en esprit, comme disait Christ dans le Sermon sur la montagne. Sommes-nous des glaneurs? Cherchons-nous à tout prix à ramasser le plus possible de la moisson divine? Et c'est positif dans ce sens. Ou pensons-nous déjà être les moissonneurs n'ayant plus besoin de rien, regardant plutôt de haut ceux qui ont besoin de glaner? Voilà un groupe qui se dit riche et pourtant, aux yeux de Dieu, il est bien pauvre, spirituellement parlant. Car dans le contexte, il est nettement question de pauvreté spirituelle. Christ a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Vous connaissez ce passage ?« Heureux les pauvres en esprit », Matthieu 5, 3. Ou ceux qui, spirituellement parlant, se savent pauvres en eux-mêmes. Et c'est là le sens. Est-ce que nous nous sentons pauvres, désirant de tout cœur posséder de grandes richesses spirituelles? Nous sommes, nous, frères et sœurs, les pauvres, les étrangers, les veufs et les orphelins qui glanent çà et là dans le champ de Dieu. Quelle sorte de grain recherchons-nous? Quel type de moisson nous intéresse? Sommes-nous des affamés du grain divin, de la récolte divine, du pain du ciel? Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. À bon entendeur, salut. Nous sommes là pour faire la volonté de notre Père céleste. Un jour, les disciples pressèrent Jésus de manger. Sans doute ne l'avait-il pas fait pendant des heures, trop occupé qu'il était à accomplir sa mission. Et ils s'inquiétaient à son sujet. Jean chapitre 4, verset 31, Jean chapitre 4 et le verset 31. Jean 4, 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Nous avons tous, chacun de nous, une tâche à accomplir. Psaume 143. Psaume 143 et le verset 10. Psaume 143 et le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Pouvons-nous dire la même chose que David? Jésus a comparé l'époque où nous vivons à celle de Noé. Et c'est une époque dure, où il y a peu de gentillesse et de compassion. Quand Jésus décrivait les responsables de son temps, il décrivait aussi notre époque, et même encore davantage, parce que ce qui était le cas à son époque n'a fait que s'amplifier depuis. Matthieu chapitre 23, verset 27, Matthieu chapitre 23 et le verset 27, il s'en prit aux responsables. Oh, nous pourrions dire la même chose à l'égard de nos responsables modernes, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Nous vivons à l'époque de la frime. Tout ce qui se voit, oh, c'est beau. Hein, ça a l'air bien de l'extérieur. Mais tout est pourri de l'intérieur. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, « Oh, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Oh, comme cela décrit notre temps aussi, n'est-ce pas? Alors, il est facile de s'aigrir et de s'endurcir. Comme l'a prédit Christ dans Matthieu 24, 12, l'iniquité s'étant accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et cela nous affecte, frères et sœurs. Soyons certains de faire le contraire et de remplir nos entrailles et nos cœurs de compassion, d'être des Boaz spirituels. Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, verset 28, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La Bible décrit pour nous un moment touchant où Christ fut ému pour ceux qui étaient venus en quelque sorte glaner. Il allait accomplir peu après un miracle spectaculaire, celui de la multiplication des pains et des poissons pour nourrir des milliers de personnes affamées. Mais sa réaction fut touchante et impressionnante au possible. Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Wow. Quel être merveilleux qui ne pensait qu'aux autres. Quel exemple extraordinaire il nous a laissé. Hébreux chapitre 2 et le verset 17. Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, de notre Père céleste, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés, vous et moi. C'est pourquoi, frères saints, vous avez part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Vous savez, frères et sœurs, c'est beau une histoire. Et nous vous en racontons parfois. Mais on peut trouver des histoires n'importe où. Cela ne manque pas. Mais quand nous glanons à la recherche des perles divines, il n'y a que dans la Bible qu'elles se trouvent. Et c'est pour cela que je préfère puiser dans les Écritures pour y trouver ce qui compte vraiment dans la vie. Ce qui compte pour nous préparer à devenir des moissonneurs spirituels dans leur royaume. Et pour cela, nous devons commencer par apprendre à bien glaner, à chercher pour notre subsistance le grain précieux de la moisson divine. Ésaïe 40, verset 10. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Il arrive, il vient, il est proche, frères et sœurs. Et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Que c'est beau comme image. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Il n'y a que dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver pareil bon grain. Nous avons un Boaz spirituel parfait qui aujourd'hui encore prend soin des pauvres en esprit que nous sommes. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Nous avons un berger, un bon berger, le bon berger. Que glanons-nous encore dans sa parole ? Matthieu 18, verset 11. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est facile de condamner les gens, de condamner le monde autour de nous. Moi, je pense toujours à Christ sur la croix, qui dit au Père, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la plupart des êtres humains n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils sont nés dans un certain milieu, dans une certaine famille, et ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne leur a jamais appris. Ils sont prisonniers du pire des criminels dans l'univers, Satan. C'est un monde retenu captif. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Soyons miséricordieux envers eux. Le Fils de l'homme est venu non pour, pour sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. 2 Corinthiens 8, 9. Pour terminer, 2 Corinthiens 8, 9. De Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Tout cela spirituellement parlant. Nous sommes pauvres, loin d'être riches. Dans Lévitique 19, 15, l'Éternel ordonna à Israël, « Tu jugeras ton prochain » selon la justice. Quelques versets auparavant, il déclara, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Versets 9 et 10. Il s'adressait aussi à nous. Apprenons à juger notre prochain selon la justice. Et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car en plus d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, c'est ce que nous enseigne la loi divine et c'est ce que notre Père céleste attend de nous. Nous sommes destinés à être des moissonneurs spirituels aux côtés de Christ. Continuons de glaner les perles du trésor de l'Éternel dans sa parole. Et n'oublions pas l'étranger, le pauvre, la veuve et l'orphelin. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis au revoir et à bientôt.